Biston clac, nous aimons la chanson française. Biston clac, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises. La balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise. Notre devise, biston clac, biston clac, biston clac. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston clac, ni dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie. Philosophie, biston clac, biston clac, biston clac, biston clac, biston clac, biston clac.
Nous vous proposons ce soir la quatrième émission d'une série de 12 consacrée à Roger Pestoury. Le thème de celle-ci est l'activité de résistant de Roger Pestoury durant la guerre 1940-1944. Comme nous le pressentions, compte tenu de l'importance du sujet, il ne s'est pas avéré possible de le traiter en une seule émission. Aussi, nous avons décidé d'insérer dans notre programme initial une émission supplémentaire consacrée à ce thème de la résistance. Elle sera diffusée le 26 février 2007. Il y aura donc deux émissions consacrées au thème de la résistance, celle de ce soir et une supplémentaire, le 26 février. Si vous avez décidé de suivre la série d'émissions consacrées à Roger Pestoury, notez bien cette date qui ne figurait pas dans le programme initial. Roger Pestoury, bonjour. Nous nous retrouvons pour ce quatrième entretien, consacré cette fois à la période de la résistance pendant la guerre 1940-44, une période excessivement importante pour vous et dont vous allez nous parler à la fois des événements et puis de votre vision sur ces événements avec le recul du temps.
Oui, je pense que c'est une période très importante pour ce qui concerne ma démarche, mon engagement et les responsabilités assumées. Il n'est pas question ici de faire l'histoire de la résistance, tout ce parcours qui a été le mien. J'ai écrit des livres là-dessus, j'ai fait des conférences, j'ai donné 2300 documents de la clandestinité au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon. Parmi ces 2300 documents, il y a 180 de mes textes. J'ai, dans un discours, exprimé un peu mon sentiment sur ce qu'a été à Lyon ce combat que nous avons mené. Je voudrais aujourd'hui évoquer certains épisodes qui m'ont particulièrement marqué et qui restent dans mes souvenirs. Je pense que ce qui me revient le plus souvent, c'est la peur ressentie à cette époque. La peur, c'est un sentiment que l'on ne peut pas mépriser. Et je me souviens de ces mois, de ces années, plus particulièrement en 1942, où je soignais ma maman qui était atteinte d'un cancer. Le docteur m'avait appelé en dehors de la maison pour me dire « Monsieur, votre maman est perdue, ce sera dans 6 mois, ce sera en 2 ans. Mais c'est irrémédiable. Et à partir de ce moment-là, avec mes activités, j'avais une machine à écrire planquée dans un rucher au bois de la maison. Cette machine à écrire, je l'utilisais pour taper des stencils, pour éditer nos tracts. Ces stencils étaient remis à notre appareil technique à Brive pour être publiés et édités. Il y avait mes voyages, soit en bicyclette, soit par le train. Et chaque fois que je m'éloignais du chevet de ma maman, et même à son chevet, parce que tout était possible à ce moment-là, je me disais, pourvu qu'on ne t'arrête pas. J'avais peur qu'on m'arrête, parce que j'avais cette responsabilité auprès de ma maman pour la soigner jusqu'au bout. Elle ne savait absolument pas ce que je faisais. La grand-mère s'en doutait. Et j'avais cette peur, cette angoisse. Heureusement, l'histoire a fait que ma maman est décédée en septembre 1942 et que j'ai été condamné aux travaux forcés l'année suivante, en juin ou juillet 1943. Ça, c'est quelque chose qui me marque encore profondément aujourd'hui. Et quand je parle de la peur, j'avais évoqué cela au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation dans mon discours. J'avais aussi peur d'être guillotiné. Vous savez, à 20 ans, 21 ans, on n'a pas peur de la mort. On affronte la mort comme une étape normale de votre parcours. Aujourd'hui, si je devais être condamné à mort, ce serait peut-être intolérable pour moi à mon âge. Mais à ce moment-là, ce sont des risques que l'on affronte, je dirais, avec beaucoup de sang-froid. Je ne parle pas personnellement, mais je parle pour tous les camarades qui étions engagés dans ce combat. Mais j'avais peur de la guillotine. J'avais un camarade, Émile Bertrand, qui avait été guillotiné ici à la prison Saint-Paul, quelques mois après que je sois arrivé dans cette ville, et ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Parce que, peut-être, est-ce dû à ma culture chrétienne, j'aurais voulu partir entier. Tandis que, quand on est guillotiné, on n'a plus sa tête, on est pratiquement dépecé. Et ça, je l'admettais difficilement dans ce parcours de l'au-delà qui peut-être m'était réservé. Et puis, peut-être y avait une troisième peur. Et celle-là, je gardais ça moi-même. Mais j'avais 2 ou 3 camarades qui avaient été terriblement torturés. Et je savais le sort qui m'attendait en cas d'arrestation. Mais 2 ou 3 de ces camarades ont eu les yeux crevés au moment de la torture. Et ça, avoir mes yeux crevés, ces yeux qui faisaient un peu le profil de ma silhouette, j'avais les yeux bleus, on me parlait souvent de mes yeux bleus, et je disais, si un jour tu dois ne plus voir, ne plus avoir tes yeux, je pense que dans cette situation, il vaudra mieux ne pas exister. Voilà un petit peu ces pensées qui me viennent, cette peur qui a été la mienne, cette maman. ses souffrances, cette guillotine, et puis ses yeux crevés. C'est un épisode qui est au début de cet entretien, mais je tenais à dire ces choses parce que c'est un peu mon personnage au plus profond de ses sentiments et de ses angoisses.
J'ai rencontré hier un aveugle qui traversait en souriant la rue où la foule qui beugle tous les rapides comme un torrent. Et tout surpris, je me suis dit, peut-être après tout, sont-ils plus heureux que nous, ceux qui marchent paupières closes au milieu des gens et des choses. Ils ne voient pas, c'est vrai, le printemps refleurir, mais revanche suprême, jamais ils ne voient se flétrir. Les visages ils aiment. Alors que nous sommes fébriles, trop exigeants et trop nerveux, l'obscur poison des grandes villes ne semble pas agir sur eux. Calmes ils vont, dressant le front. Peut-être après tout, sont-ils plus heureux que nous, ceux qui marchent paupières closes au milieu des gens et des choses. Et tandis qu'on oublie sans peine avec le temps nos croyances premières, la nuit vers Dieu qui les entend élève leur prière. Aussi, quand vient la mauvaise heure, où sur le seuil paraît la mort, tandis que chacun tremble et pleure, la suppliante attendre encore, ils partiront sans un frisson. Peut-être après tout, sont-ils plus heureux que nous, ceux qui marchent paupières closes au milieu des gens et des choses. Ils ne voient pas, c'est vrai, le printemps refleurir, mais revanche suprême, jamais ils ne voient se flétrir les visages qu'ils aiment.
Je voudrais parler maintenant, c'était en 1941, de la lettre reçue de Cahors. C'est une lettre que j'avais reçue du lycée de Cahors par une étudiante. J'avais écrit à une de ses camarades pour lui faire part de ce besoin de s'engager dans la résistance, et j'avais exprimé évidemment, en des termes assez obscurs, moi j'avais exprimé ce souhait dans un courrier qui était le mien, que ces jeunes filles de ce lycée puissent entreprendre une action dans la résistance. Cette lettre est signée du 11 mai 1941, c'est-à-dire pour répondre à des insultes reçues, que c'était bien avant l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Cette lettre dit ceci. Votre lettre nous est arrivée depuis quelque temps déjà. Oui, vous pouvez comptait fidèlement sur nous. Cette atmosphère triste et monotone de l'école nous oppresse. Nous savons que nous ne sommes utiles à rien, que nous végétons sur place. Ne rien faire pour l'humanité ou seulement pour nous. Vivre, c'est dominer les événements et non les subir. Vivre, c'est avoir un idéal et tendre tous ses efforts dans le but de les réaliser. C'est entendu, nous viendrons le 25 mai. J'ai une foi profonde en l'avenir. Cette foi, je voudrais la communiquer à tous. Je ne désespère pas. Donc, à bientôt, le plaisir de vous revoir. Cette lettre, pour moi, est très symbolique, parce que, après ces pérégrinations du début de la résistance depuis 1940, où j'allais frapper aux portes des camarades, savoir ceux qui acceptaient, ceux qui refusaient, ou ceux qui simplement fermaient la porte. Là, cette fois, à partir d'un courrier, j'avais une réponse et j'avais une atmosphère. Et c'était aussi le signal de ce que nous allions faire. C'était plus la construction du Parti communiste français. C'était plus la construction des jeunesses communistes. C'était plus le responsable au cadre que j'étais dans une interrégion, avec ce besoin de faire établir des biographies à chacun des camarades pour savoir si on pouvait leur confier une responsabilité. Cette fois, nous en étions au stade d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir, de croiser nos regards avec ceux qui n'étaient pas communistes, qui n'étaient pas aux jeunesses communistes, mais qui avaient aussi ce sentiment profond de liberté et de besoin d'action qui nous animait. C'était le temps du front patriotique de la jeunesse, c'était le temps du front national, qui sont deux structures qui ont compté dans la marche de l'histoire de cette résistance. Et cette fois-là, à Cahors, dans cette réunion qui s'est produite, il y a eu cette conclusion, nous avons constitué le front patriotique de la jeunesse avec ces jeunes filles. Nous avons constitué une structure de jeunesse communiste et nous avons constitué parallèlement le Front National. Déjà, ces structures-là, je m'en étais occupé au niveau de plusieurs départements, mais pour moi, c'était un peu un aboutissement parce que c'était quand même mon croisement de route avec la jeunesse. Et il y a ce paradoxe particulier, c'est que le Front patriotique de la jeunesse a été constitué avec ses jeunes camarades et le Front national a été constitué sous l'autorité de l'un de leurs professeurs, qui n'était autre que Madame Roger Garaudy. Elle était professeure à ce lycée. Roger Garaudy, communiste, était arrêté à ce moment-là. Et voilà comment le hasard des circonstances fait que des croisements de route se créent et que Garaudy, Madame Garaudy, ces jeunes, tout cela, c'était dans le vent et dans le souffle de l'histoire. Voilà pourquoi cette réunion, ce lycée de Cahors, ça tient une si grande place dans mes pensées.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel était en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas. Que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima. Pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura. Et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla. L'alouette et l'hirondelle, la rose et le résida. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Celui.
J'évoquerai ensuite des noms qui sont gravés dans ma mémoire parce que ça se rapporte toujours à cette même période, les années 1940, 41, 42. C'est au moment où j'avais l'interrégion de Limoges avec 8 départements et là, des arrestations se sont produites en 1942. Vous savez, la clandestinité, j'avais d'ailleurs encore à ce moment-là ma véritable identité, mais on me connaissait sous le pseudonyme de Maurice. On ne savait pas qui j'étais, on ne savait pas que j'étais un exploitant agricole de Gignac-Lot. Et là, il y avait quand même, disons, une sous-estimation des risques qui pesaient sur nous. Ça veut dire que quand j'allais à Limoges, j'allais chez des camarades, je partageais des moments agréables avec eux, dans les discussions ou à table, et je partais confiant et tranquille. Cette tranquillité a cessé ce jour où j'ai reçu une lettre d'une de ses camarades qui m'a écrit et m'a dit « Ne venez pas, Maurice, ne venez pas. » J'avais donné une adresse qui n'était pas celle de Cirijol. « Ne venez pas parce qu'il y a eu des arrestations, parce qu'il y a eu des camarades qui ont parlé et que si vous venez, vous serez arrêté. » Évidemment, ça m'a mis en garde. Je ne suis plus retourné à Limoges à ce moment-là, mais dans ce contexte, dans toutes ces enquêtes et ces arrestations qui avaient lieu, il s'est trouvé que mon camarade Lotissier a été arrêté. Il a été arrêté, lui, à Périgueux, pas à Limoges. Et Lotissier, c'est celui que j'avais remplacé quelques mois plus tôt dans l'interrégion de Limoges. Et ce Lotissier était de Saône-et-Loire. Il avait l'accent de Saône-et-Loire. Il était d'origine paysanne lui aussi. Et il y avait quelque chose de très fraternel dans nos discussions. Ça représentait un visage, ça représentait un peu les valeurs humaines pour lesquelles nous combattions. Et mon camarade Lotissier a été arrêté et il a commis cette imprudence que nous n'aurions pas fait quelques mois plus tard. Cette imprudence, il m'a écrit. Il m'a écrit pour me dire qu'il avait été arrêté. Je ne sais pas comment qu'il a pu me faire parvenir cette lettre, mais en tout cas, cette lettre est arrivée à mon adresse, à Cirijol, commune de Gignac-Lot. C'était vraiment une maladresse. C'est quelque chose que j'ai pardonné à mon camarade Lotissier, parce que c'était un peu l'infantilisme de la clandestinité à ce moment-là. Mais j'ai quand même reçu cette lettre, elle n'a pas été interceptée, mais ça m'avait beaucoup marqué, et j'avais eu un sentiment de risque qui pesait sur ma sécurité. Et puis, toujours cette interrégion de Limoges, je pense à ce camarade Patriarche. C'est lui qui me recevait là-bas. Il m'avait même offert une paire de gants, parce que c'est la capitale de la ganterie, cette région, et lui travaillait dans ce milieu-là, et j'ai toujours conservé ces gants de mon camarade Patriarche. Et ce camarade, évidemment, est monté, a progressé en responsabilité jusqu'au jour où il est venu à Lyon, où il avait une interrégion voisine de celle de Lyon. Et ce camarade Patriarche, avec qui nous avions des liens très forts, que j'avais retrouvé à la libération, il s'est trouvé que, partant à Givors, avec des chauffeurs qui étaient à ce moment-là des chauffeurs apprentis pour la conduite, parce que il y avait bien sûr pas de permis de conduire, mais c'était la libération. Il y a eu un accident et mon camarade Patriarche a été tué. Pour moi, ça a été ressenti comme un deuil personnel, parce que ces liens très forts qui s'étaient constitués dans cette période si difficile, c'est quelque chose de moi qui disparaissait. Et on m'a remis, parce qu'il avait ça dans sa poche, une des lettres que je lui avais adressées, et j'ai gardé cette lettre comme un témoignage de cette affection que nous avions ensemble. Nous l'avons enterré ici à Lyon, nous l'avons enterré, il y a eu une cérémonie extraordinaire avec des centaines de personnes, et c'est le premier grand discours qui a été fait par notre camarade Léo Figuière. Et j'ai même une photo de mon ami Patriarche qui repose là-bas, rue de la République à Lyon, et où nous montons la garde autour de son cercueil. Voilà aussi des choses qui font partie de mon histoire, de l'histoire de ces temps-là. Je voudrais maintenant évoquer, nous dépassons cette région, cette interrégion, ma terre natale, mes bois, mes bêtes, la grammaire. C'est lorsque je suis arrivé à Lyon le 12 mars 1943. Le 12 mars 1943, je ne savais pas où j'allais quand j'ai quitté Gignac. C'est un camarade qui s'appelait Baron, Il avait un pseudonyme à ce moment-là, je ne m'en rappelle plus lequel. Et il est venu me chercher à Gignac. Il m'a dit, tu t'habilles? Je m'étais habillé convenablement. Mais j'avais l'impression que on devait m'envoyer au maquis. Donc je m'étais habillé, j'avais laissé mes vêtements, disons, du dimanche, un manteau tout neuf en particulier, je l'avais laissé dans l'armoire, là-bas, à Cirey-Jol. Et à la gare de Gignac, Adrien Baron, il s'appelait, m'a dit, tu n'as que ce manteau, j'en ai un autre, il est tout neuf, mais il est à la maison, tu retournes le chercher. On partira le train suivant, mais tu retournes le chercher. Et je suis retourné à Gignac à pied. Je suis passé par les raccourcis et j'ai retrouvé mon camarade Baron là-bas à la gare de Gignac avec mon manteau et il était très content. Il m'a dit « Ah ben voilà ce que j'attendais de toi, au moins ça te change ça ». Et nous partons jusqu'à Brive et nous descendons à Brive et à Brive, mon ami Baron me dit « on descend là ». Je ne savais pas où j'allais, « on descend là ». Je descends en gare de Brive et il me donne un billet. Il me donne un billet de chemin de fer pour Lyon. Et il me dit, voilà, tu as là un billet de chemin pour Lyon. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Au revoir, Maurice. Et il m'a laissé sur le quai de la gare de Brive, tout seul, avec ma valise, pour attendre le train qui allait me conduire à Lyon. Et comme au moment du décès de ma grand-mère, de ma maman plutôt, je me suis senti très seul. Je me suis senti pratiquement abandonné. J'étais quand même un paysan. La grande ville, je la connaissais très peu. Ma plus grande ville, c'était Brive, en Corrèze. Et partir à Lyon comme ça, à l'aventure, avec ma valise, ne pas savoir où j'allais. M'avait donné un mot de passe pour un camarade que je devais rencontrer à Neuville. À Neuville, je devais rencontrer ce camarade 8 jours après. Tel nom, tel lieu, tel endroit. Et c'est simplement avec ces moyens-là que je suis arrivé à Lyon en gare de Perrache. Et je dois dire que ça a été pour moi quelque chose de très dur et de très interrogatif. La première chose, c'était savoir où coucher. Et le camarade m'avait dit, ne couche pas dans des hôtels autour des gares parce que c'est plus dangereux qu'ailleurs. Alors, ma première chambre, ça a été Place de l'Abondance à Lyon. C'est là que j'ai couché à l'hôtel. J'ai couché 3 nuits à l'hôtel. D'ailleurs, la troisième nuit, je suis parti parce que il y a eu un contrôle de pièces d'identité. J'avais mes véritables pièces d'identité à ce moment-là. Et c'était les gendarmes qui faisaient ce contrôle. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il vient faire un paysan ici à Lyon? Alors j'ai raconté une histoire qui avait une exposition, quelque chose. Enfin, ils m'ont laissé tranquille, ils sont partis. Mais moi, j'ai dit, tu peux plus rester là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, il faut absolument que tu trouves un logement. Je suis allé place Bellecour. Il y avait un lieu où il y avait des adresses de familles qui recueillaient des personnes qui louaient leur appartement. Et c'est comme ça que je suis allé rue Garibaldi. et c'est rue Garibaldi que j'ai eu ma première chambre lorsque je suis arrivé à Lyon. J'étais donc installé là-bas, j'étais installé convenablement. C'est des gens qui étaient très chaleureux, qui riaient un peu de mon accent du Lot. La maman qui était là, la dame qui était là, m'a accueilli comme une maman. J'étais bien, bien installé. Et comme ça, je pouvais partir. Je suis parti à mon premier rendez-vous, là-bas à Champagne, pas de camarades. Deuxième rendez-vous, pas de camarades. Troisième rendez-vous, enfin, le camarade y était. Ce camarade s'appelait Verniol. Il était de Nîmes, et il avait l'accent de Nîmes. Et Verniol et moi, dans nos discussions, il y avait quelque chose de fusionnel, parce que nous avions un peu un accent particulier qui faisait que nous n'étions pas des Lyonnais. Cette ville de Lyon, nous l'appréhendions, et il y a des liens très étroits qui se sont créés entre nous. Je me rappelle ce premier rendez-vous, très détendu. Nous avons dit, on va aller au restaurant, on allait, vous savez, on ne pensait pas à ce moment-là, la clandestinité, j'avais encore pas mes faux papiers d'identité, c'est lui qui m'a donné la filière pour avoir mes faux papiers d'identité. Nous allons donc déjeuner rue Sébastien Griff. Nous allons dans un restaurant, là nous avons déjeuné, très détendu. Nous avons même flirté avec une jeune fille, Jarlan. Elle habitait Jarlan. Et puis, il y a eu un incident très grave tous les deux, parce que il s'est trouvé que je me suis laissé prendre par le couvre-feu. Et par le couvre-feu, pour retourner là-bas, rue Garibaldi, c'était pas possible. Et elle voulait bien m'accompagner jusque chez elle, mais elle voulait pas que je rentre dans sa chambre. Et il a fallu que, presque que je la violente, que je lui dise de gré ou de force, je dois rester ici. Et elle a accepté. Et elle m'a accordé cette hospitalité. Nous n'avons rien fait d'autre que cela, mais j'ai gardé ce souvenir comme une imprudence terrible de ma part. Vous imaginez un petit peu, j'aurais été arrêté dans ces circonstances après le couvre-feu à Lyon, parce que j'avais pas respecté le couvre-feu. C'était quelque chose de pitoyable pour un responsable comme moi. Voilà un épisode de cette époque, et mon camarade de Nîmes, il s'est trouvé que ce camarade Verniol, sitôt notre repas, a été arrêté en gare de Perrache le lendemain. Le lendemain, on se quittait, bien sûr, on s'est dit, et puis il a été arrêté là, et il a été déporté. Il a fait Dachau, et il a retrouvé d'ailleurs son père qui était déjà déporté. J'ai appris ça, mais ils sont revenus tous les deux à la libération. Voilà un peu des épisodes assez particuliers. Et puisque je suis sur cette période où nous nous installions dans la clandestinité, Je rappelle que j'avais encore pas mes faux papiers, on m'a habillé, on disait nous habiller pour nous munir de faux papiers. On m'a habillé 2 mois après mon arrivée à Lyon, où on m'a donné mes faux papiers, une fausse identité. Je m'appelais bien sûr toujours Maurice, mais avec de fausses identités, avec des cartes d'identité qui étaient bien fabriquées. J'étais un autre personnage, puisque j'avais perdu mon identité. Et avant que j'aie cette carte, j'étais toujours rue Garibaldi là-bas. J'étais toujours rue Garibaldi, chez des gens qui m'avaient accueilli avec autant d'humanité, d'affection, je dirais. Et un jour, le camarade de la direction des jeunesses communistes me dit « T'es bien logé, hein ?» Je dis « Je suis bien logé, bien sûr. Je suis comme dans ma famille là-bas. » La dame, c'est presque ma maman. Des fois, le dimanche, elle me demande de l'accompagner pour aller au ravitaillement. Je la suis. Ce que je lui ai pas dit, c'est que lui, le L'homme de cette maison, il était très pétainiste à ce moment-là, comme beaucoup de gens étaient pétainistes. Mais il allait plus loin qu'être pétainiste. J'ai pas dit ça à mon camarade de la direction des jeunesses communistes, mais autre aberration de ma part. Il avait reçu une invitation pour Philippe Henriot, qui venait à Lyon, je crois que c'était Salle Ramon. Et il m'a donné une invitation pour aller voir Philippe Henriot. Et moi, évidemment, je disais pas que j'étais dans la résistance et tout. J'ai dit, bon, pour pas qu'on puisse avoir de doute, tu vas l'accompagner. Et voilà Pestouri, le dirigeant qui se trouve au Salle Ramon, à 10 mètres de Philippe Henriot. J'aurais eu des instructions pour le tuer à ce moment-là. J'étais en situation de pouvoir accomplir ce geste. Vous voyez, même les gens les plus protégés, le hasard, le miracle fait qu'à un moment donné, bon ben, le coup pour réussir. Et ça, quand mon camarade, on l'appelait Hubert, c'était Léo Figuère qui s'appelait exactement, mais on l'appelait Hubert, m'a demandé si j'étais bien logé. Et il m'a dit, mais t'es pas déclaré au moins. Mais j'ai dit, oui, quand je suis arrivé là-bas, j'ai donné mes papiers d'identité. Il m'a dit, tu as fait ça, Maurice? Mais j'ai dit, vous m'aviez pas donné mes faux papiers. Il fallait bien que je donne mes papiers d'identité, puisqu'ils me les ont demandés. Mais tu te rends compte que ces papiers d'identité, quand on loue une chambre, il faut la déclarer au commissariat de police. Et comme toi, tu es recherché là-bas, à partir de ce soir, tu ne vas plus coucher là-bas. Tu vas coucher sous le pont, tu couches n'importe où, mais tu vas pas coucher là-bas. Alors il m'a donné une trouille épouvantable. Moi, je suis parti de là. Heureusement que j'ai trouvé une chambre rue de Créqui. Et le surlendemain, la Gestapo et la police faisaient une descente là-bas, rue Garibaldi, là-bas où j'étais logé, chez ces gens. Et j'étais parti 2 jours avant. Et ces gens étaient effarés. Il disait, mais enfin, il était si gentil, ce monsieur. Comment gentil? C'est un terroriste que l'on recherche. Enfin, bref, moi, j'ai appris tout cela à la Libération. Parce qu'à la Libération, je suis retourné chez ces gens et ils m'ont expliqué tout ce qui s'était passé. Alors, bien sûr, lui, il était plus pétainiste. J'ai été accueilli comme un vainqueur du convoi que nous avions mené. Et j'ai quand même risqué gros par imprudence, disons. Et voilà comment ces souvenirs me restent. Et rue Garibaldi, là-bas, rue Sébastien Griff, il m'est arrivé un petit peu la même aventure. J'étais bien là. J'étais bien parce que la chambre n'était pas déclarée. C'était une chambre d'un garçon, le fils de cette dame qui m'avait loué cette chambre, qui était parti, il n'était plus là, soldat, je ne sais pas quoi. Mais alors, cette chambre, qu'est-ce qu'il y avait comme punaise? J'ai écrit un livre, j'ai appelé Le nid à punaise. J'ai jamais autant été dévoré par les punaises que dans cette chambre de la rue de Créqui. Et là, il s'est passé le même phénomène. Je partais très tôt à mes réunions. Très tôt. J'avais structuré mon emploi du temps où ça se passait en principe le matin, pour que j'ai mes après-midi de libre. J'avais 3, des fois 4 rendez-vous la même matinée, très tôt. Et ce jour-là, j'étais à Caluire, j'avais fixé une réunion à 7h30 ou 8h. Alors je suis à Caluire, et juste au moment où je suis là-bas, il y a une perquisition de l'appartement où j'étais. Et là, il y avait la police, il y avait la Gestapo. Il y avait une alliance police-Gestapo à ce moment-là. Quand ils faisaient ces enquêtes, il y avait les 2 structures en même temps. Et là, ils sont venus, ils ont frappé à ma porte et ils ont eu la correction de pas enfoncer la porte. Ils ont frappé à côté et à côté, il y a eu des arrestations parce qu'ils venaient pas pour moi personnellement. Ils venaient parce qu'on leur avait signalé qu'il y avait des Juifs qui étaient locataires dans cet immeuble. Et ils étaient à la recherche de ces Juifs. D'ailleurs, d'après ce qu'on m'a raconté à la Libération, je suis sur la Libération, il y a un Juif qui a été tué à ce moment-là, il a essayé de s'évader, puis il a été abattu, bien sûr. Et ils sont revenus le lendemain. Mais le lendemain, j'étais plus là parce que la dame qui m'avait loué cette chambre, c'est la même personne qui avait son restaurant rue Sébastien Griff, ce fameux restaurant dont je vous ai parlé lorsque je suis arrivé à Lyon, comme je le trouvais très bien. Et alors elle m'a dit, partez vite, la Gestapo est là-bas. Et je lui ai dit, je vais partir, mais j'ai une valise là-bas. J'avais pas encore mes chambres, plusieurs chambres et tout. Et j'avais une valise, j'avais tous mes tracts, mes documents, tout ça. Alors j'ai cette valise, comme je me faisais passer pour un inspecteur de la Sicanès, d'une compagnie d'assurance, j'ai tous ces livres, tous ces documents, si vous pouviez me les récupérer. Elle m'a dit, partez, moi je m'occupe de la valise. Elle a été chercher cette valise, elle a amené cette valise chez elle, et à la libération, je suis retourné chercher ma valise. Et j'ai ouvert cette valise. Quand elle a vu ça, elle était effarouchée. Elle m'a dit, mais vous auriez pu me faire fusiller. Oh, j'ai dit, mais on fusillait pour beaucoup moins. Voilà comment j'ai sauvé une partie des documents que j'ai donnés au CHRD. Vous voyez, le hasard des choses. Alors voilà aussi une histoire qui rappelle l'atmosphère de cette époque et un peu notre jeunesse, comment on affrontait ça, je dirais presque, avec des inventures.
Et ces réunions que vous organisiez assez régulièrement, c'était avec qui?
Voilà.
Vous les convoquiez comment?
Voilà, je les convoquais parce que nous avions des courriers. Nous avions des courriers, alors il y avait une relation par courrier, le code, j'avais deux courriers, j'avais un courrier qui apportait le texte et un deuxième courrier qui apportait le code, c'est-à-dire la signification de ce texte. Parce qu'il ne fallait pas, en cas d'arrestation, qu'on arrête ce courrier, cet agent de liaison, et qu'il y ait ces indications là-dessus. Donc il y avait une double démarche, le code et le texte de la lettre. Et puis, il y avait des relations directement avec les responsables. C'était les responsables, en principe, de 8 départements, les 8 départements qui étaient sous ma responsabilité. J'allais souvent à Grenoble, mais souvent je les faisais venir à Lyon. Ceux de l'Aisne, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Drôme, je les faisais venir à Lyon. Et en venant à Lyon, par mes courriers, par ces liaisons, et c'est comme ça que je donnais les directives. Et j'avais des courriers qui leur remettaient ensuite les documents pour qu'ils puissent poursuivre leur action militante. Et c'est comme ça que je pouvais structurer mon emploi du temps, tel jour, telle heure, tel camarade, à tel endroit, tel lieu. J'ai fonctionné comme ça pendant tout le temps que je suis resté à Lyon, c'est-à-dire de 12 mars 1943 jusqu'à la libération. J'ai fait des centaines de réunions comme ça. Jamais. Et parce qu'à ce moment-là, il y a des directives sur la discipline, sur le respect des règles de sécurité, où on appliquait strictement. Jamais je n'ai reçu un camarade, soit dans un café, soit dans un restaurant, à partir de ce moment-là. Et je recevais ces camarades en dehors de Lyon, on nous disait faut les recevoir. Par contre, j'en recevais souvent au parc de la Tête d'Or ou à Fourvière. Vous savez, il y a la descente de Fourvière, là on pouvait discuter une heure, deux heures, ou à Caluire, la Monte Castellane, à Champagne au Mont d'Or, là où j'ai eu mon premier rendez-vous, de grandes randonnées pédestres, vous voyez, où je parlais, il y a des camarades qui pouvaient pas me suivre tellement je parlais, et des fois ils étaient derrière, ils me disaient où tu vas, je parlais dans le vide, parce que je voyais pas que le copain était à côté de moi. J'ai gardé cette habitude de paysan, vous voyez. Alors voilà, j'ai reçu...
Finalement, peu de contacts. Vous côtoyez pas énormément de militants, quoi.
Très peu. J'ai peut-être côtoyé en 18 mois peut-être 30 militants, pas davantage. Mais je les voyais. Et par contre, à Grenoble, j'y allais presque toutes les semaines, parce que là-bas, on avait une structure très forte. Et puis là-bas, c'était la ville voisine des maquis, tout ce qui s'est passé là-bas au Vercors, tout cela. Et nous avions là des structures très fortes. Nous avions presque un état-major qui se substituait à Lyon. Lyon, il y avait les états-majors des organisations de résistance. Et c'est pour ça qu'on a dit la capitale de la résistance. Mais à Grenoble, c'était à la fois politique et militaire, parce qu'il y avait les maquis tout autour, il y avait des structures qu'il fallait mettre en place, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort. À Grenoble, moi j'avais des 200 adhérents aux jeunesses communistes à ce moment-là, qui menaient une activité, et quand j'allais là-bas, ils m'accueillaient dans l'internat d'un lycée, ils me faisaient coucher là, ils ont fait une connerie une fois, ils ont fait pétarader je sais pas quoi, et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce bruit, ben en fait l'arrivée de Maurice, j'ai dit espèce de con, vous vous rendez compte dans les conditions, vous voyez, il y avait de l'infantilisme qui allait beaucoup plus loin. Il allait beaucoup plus loin parce que, par exemple, les Italiens, c'est les Italiens qui occupaient Grenoble à ce moment-là. Et les copains, quand ils allaient au cinéma, ils avaient cette manie de couper la plume des Italiens. Ouais, des conneries. Les gars, bien sûr, c'était un risque pour eux. Mais on plaisantait comme ça. On plaisantait comme ça.
Je veux pas mourir dans la cour, ni en vrac au fond d'un four, pas finir cocorico, les deux pieds dans le même drapeau. Je veux de la terre bonne à aimer, je veux de la bonne terre à semer. Je voudrais partir au printemps, porté par un drapeau blanc. Je voudrais changer mon clairon contre un petit soleil de plomb. Je voudrais changer mon refrain contre un long, long, long petit matin.
Et ça m'a beaucoup impressionné, ce problème des Italiens, parce que jusqu'en septembre 1943, après septembre, c'est les Allemands qui ont occupé ces régions. Mais jusque-là, les Italiens protégeaient les Juifs. Moi, par mes convoyeurs, j'avais des convoyeurs, c'est-à-dire c'était des gars qui étaient désignés pour transférer les jeunes qui voulaient partir au maquis. Alors, ils partaient de Lyon, d'ailleurs, et on les transférait au maquis. On appelait ça des convoyeurs. Mais à un moment donné, il n'y avait pas suffisamment de travail pour eux. Alors, je les ai utilisés, j'ai transféré 163 personnes, une trentaine de familles, qui étaient frappées par le risque d'un pasque juif. Et j'avais un agent de liaison. C'est pour ça que je m'étais intéressé en particulier de la situation de ces gens qui étaient menacés. Et cette personne, elle vit d'ailleurs toujours, elle était au CHRD. Et cette personne m'avait expliqué que sa maman avait été arrêtée comme juive. Et ça m'a alerté, j'ai dit, elle a été, on ne pensait pas à ce moment-là qu'il y avait des rafles comme ça, des juifs, des poursuites comme ça. Et alors, ça m'avait mis en éveil, et j'ai poussé plus loin, et puis j'ai enregistré 163 personnes, plusieurs familles, qui étaient menacées, parce que ils étaient menacés par dénonciation. Il faut que vous sachiez, monsieur, qu'il y a eu 5 millions de lettres de dénonciation des Français, adressées ou à la police française ou à la Gestapo. Ça, il faut le dire, ça fait partie de l'histoire de France. Comme ça fait partie de l'histoire de France, la rafle du Veldiv à Paris, quand il y a eu ces milliers de Juifs arrêtés, c'est pas les Allemands qui les ont arrêtés, c'est les Français qui les ont arrêtés. Et le paradoxe, c'est que ces personnes qui étaient menacées, qui étaient dénoncées ici, avec le soutien de la préfecture, de toutes les autorités, on les envoyait là-bas en Savoie, en Haute-Savoie ou dans les Alpes-Maritimes. Elles étaient accueillies par des familles d'accueil. Il y avait beaucoup d'enfants, d'ailleurs, dans le nom. Et il se trouvait que les Italiens les protégeaient. Les Italiens étaient la puissance occupante là-bas et ils protégeaient ces familles. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'à Lyon, c'est les Français qui les dénonçaient pour qu'ils partent en déportation. Vous voyez, j'ai voulu écrire cela dans mon premier livre et l'éditeur n'a pas voulu donner cet épisode. Il m'a dit, vous me feriez avoir un procès avec ça. Et maintenant, on commence à en parler. Vous avez eu écho à des émissions que ce que je rappellerai, ce que je rappelle, on commence à parler de ces choses-là, de cette histoire-là, voyez. Mais ça, c'est une réalité.
Jette encore un dernier regard, puisque c'est ton dernier matin, dans ce pays de cauchemar où nous espérions notre fin. Serrons-nous plus fort, mon amour, entre la chaleur de nos corps. Petit David ignore encore que la mort vient au petit jour. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Adieu le camp et les baraques, les barbelés, les miradors. L'éclair des coups de feu qui claquent, tout va finir et je t'adore. Dans cette humanité qui meurt, il se peut encore que l'on s'aime et qu'au-delà de toute haine, on puisse pleurer de bonheur. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Bientôt va s'ouvrir cette porte sur l'antichambre de la mort. Si nous voulons qu'elle nous emporte, il faudra respirer bien fort. Mais quand nous perdrons la lumière bleutée qui tombe du plafond, Yahvé, nous dirons la prière chantant la gloire de ton nom. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Mais il me vient une question avant que s'achève le drame qu'un peu plus de 6 millions d'âmes posent à la civilisation. Quand on nous prenait par wagon pour nous conduire à nos bourreaux, que faisiez-vous, tas de salauds, l'amour était-il en prison? Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Mais voici que la porte s'ouvre, bientôt nous monterons là-haut. Plus haut que l'aile des corbeaux, plus loin que le regard découvre. Dans la grisaille des nuages, nous retournerons en poussière et nous irons au ciel d'hiver accrocher les toits des villages. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif.
Ainsi se termine cette quatrième émission d'une série de 12 consacrée à Roger Pestori. Comme nous le pressentions, compte tenu de l'importance du sujet, il ne s'est pas avéré possible de le traiter en une seule émission. Aussi, nous avons décidé d'insérer dans notre programme initial une émission supplémentaire consacrée à ce thème de la résistance. Elle sera diffusée le 26 février 2007. Il y a donc deux émissions consacrées au thème de la résistance, celle de ce soir et celle supplémentaire du 26 février. Si vous avez décidé de suivre la série d'émissions consacrée à Roger Pestori, notez bien cette date qui ne figurait pas dans le programme initial. Au cours de cette émission, vous avez entendu les illustrations musicales suivantes. La chanson « Les aveugles » sur des paroles de M. Aubray, une musique de H. Poussig, interprétée par Fréhel. Puis c'était « La rose et le réséda », le poème de Louis Aragon, mis en musique et interprété par Hélène Martin. Ensuite, un instrumental, Aimable jouait avec son orchestre la chanson de Charles Trenet « Quand tu reverras ton village ». Puis, c'était un extrait de la chanson de Claudine Lebec qu'elle interprétait « Le coq ». Et enfin, Pierre Serros interprétait sa composition « Paroles et musique, les Juifs ». Bonsoir.
Chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. Thank you. printemps, qu'une chance qu'on les mise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre au dedans, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les mise, mais on les claque. Son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant clair. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant clair. Thank you.
on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Il y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se réunissent, ils noircissent le printemps, qu'une chance on les mise, mais on les claque, on les mise.